Kasha throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume, comme toujours au micro, pour présenter cette émission, la 50e depuis le début du podcast, donc c'est un petit palier qu'on atteint. Et pour fêter ça, eh bien, il fallait au moins l'équipe au grand complet, c'est pour ça que j'aurai la joie d'être accompagné de Thomas et également de Mathieu. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu, et bonsoir aux éditeurs.
Salut tout le monde.
Voilà, la grande première de 2023, hein, puisqu'on a, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré d'émission. Du coup, l'idée, ça va être ce soir, autant de revenir sur la fin de saison des Panthers, que de se projeter un petit peu dans l'actualité, voir un petit peu le futur plus ou moins proche de la franchise, avec notamment les questions qui tournent autour du head coach et du coaching staff. Donc c'est un petit peu ça le sommaire de l'émission et le programme. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec comment s'est terminée la saison des Panthers, puisque effectivement nous sommes le 19 janvier déjà et la saison des Panthers est terminée depuis maintenant bien longtemps, puisqu'on avait laissé Carolina battue par les Steelers à domicile à la mi-décembre, après une prestation... nous avait laissé un petit peu sur notre faim quand même, parce qu'on avait été un petit peu enthousiasmés les semaines précédentes. On a été rassurés par la prestation face aux Lions, où les Panthers se sont imposés face à une équipe qui était en pleine bourre, notamment avec un énorme jeu au sol, puisque j'ai plus les chiffres exacts sous les yeux, mais c'était plus de 300 yards pour l'attaque des Panthers dans le jeu au sol. Deonta Foreman et Chuba Hubbard ayant chacun eu deux gros matchs.
Ouais, c'était 165 yards pour Foreman et 125 pour Hubbard.
Voilà, merci pour ces précisions. Donc voilà, tous les deux à plus de 100 yards largement. Et voilà, on avait eu un sentiment vraiment de domination et les Panthers avaient littéralement marché sur Détroit sur cette rencontre. Est-ce que vous aviez retenu, sans rentrer trop dans le détail, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous aviez retenu, quelque chose de particulier sur ce match ou pas?
Je pense que la chose qu'on peut retenir et qu'on avait déjà retenu, c'est que effectivement du coup on s'appuyait quand même énormément sur un jeu de course, que ça a continué de marcher. On va voir que ça a pas toujours été le cas, hein, notamment dans le match suivant, mais voilà, que ça a marché, que Foreman et Hubbard sont quand même assez bons, donc voilà, c'est peut-être la chose principale qu'on peut retenir. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on a réussi à gagner quand même contre une équipe, comme tu dis, qui était en pleine bourre, qui était sur une très bonne dynamique. Comme quoi, on est capable, en fait, de faire des bonnes choses et de faire tourner la baraque. Même avec un Sam Darnold qui avait été assez correct, 15 sur 22, 250 yards, un touchdown. C'était pas une mauvaise performance, très clairement.
Ouais, c'était son quatrième match consécutif sans perte de balle de mémoire, ce qui devait être un record pour lui. Et du coup, les Panthers s'étaient offerts un peu une finale dans la semaine suivante face aux Buccaneers, des Buccaneers qu'ils avaient battus un petit peu plus tôt dans la saison. Et du coup, en cas de victoire, les Panthers auraient repris la tête de la division et auraient eu les clés en main pour se qualifier pour les playoffs. Je vais pas vous mentir, j'y ai cru. Quand les Panthers ont mené 21-10 au début du dernier quart, j'ai cru qu'ils allaient pouvoir le faire. Malheureusement, Tom Brady a réussi à tirer parti d'un backfield défensif des Panthers qui était orphelin de Dante Jackson depuis maintenant plusieurs semaines, et surtout de Jesse Horn qui s'était blessé la semaine précédente. Et du coup, les Panthers ont dû s'incliner. Ce qui a précipité la fin de leur saison, puisque les Buccaneers ont ainsi remporté la division. Écouler les derniers maigres espoirs de playoff de Carolina. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce match, si vous deviez en tirer quelques conclusions? Est-ce qu'il y avait du nouveau?
Moi aussi j'y ai cru, hein. T'étais pas le seul. J'y ai longtemps cru, et malheureusement, on n'a pas fait le poids, et j'avoue que je sais pas trop dire à quoi c'est dû. Mais franchement, grosse déception, surtout que je trouve qu'on passe quand même pas si loin que ça, même si dernier quart on n'a pas su faire le poids. sur l'ensemble du match, on se fait déchirer par Evans et Godwin. Qui sont tous les deux à plus de 100 yards, même Evans est à 207 yards. C'est difficile, surtout que je trouve que côté défense, c'était plutôt le côté qui performait bien depuis le début de la saison habituellement. Et là, malheureusement, sur le match qui comptait, entre guillemets, ça a pas fonctionné.
Ouais, mais comme vous, j'ai cru aussi sur une bonne partie du match. D'autant plus que bon, Sam Darnold fait encore une fois un match qui était pas mauvais, hein, ce qui met 3 touchdowns pour une interception, mais en fait, on a des craquages dans des moments un peu clés du match. Au fil du match, on sent un peu la dynamique qui s'inverse. Et en général, quand c'est Tom Brady en face, on n'aime pas trop ce genre de scénario où on sent qu'il y a un changement de dynamique parce que c'est Tom Brady et il a l'habitude de mener ce genre de choses. Mais voilà, comme je disais, dans le match face aux Lions, on a une attaque à la course qui est hyper performante. Là, on se retrouve avec une attaque à la course qui fait 35 et 12 yards pardon, pour Foreman et Hubbard respectivement. Par rapport à la semaine d'avant où on met entre 300 yards à la course, là on passe à 47, c'est pas énorme parce que Tampa a quand même une ligne défensive qui était quand même relativement costaud. Ça nous a pas aidé, donc du coup on s'est peut-être plus reposé sur les jeux de passe. Et aussi, ouais, comme tu le signalais, on a ce problème avec la défense, avec Mike Evans qui s'est fait hyper plaisir hein, dans le backfield. Ça me rappelle un peu à l'époque le gros match de Julio Jones. C'était une catastrophe ce match. On a un peu revu une même dynamique avec un CJ Anderson qui s'est retrouvé assez vite dépassé par les événements à plusieurs reprises. Mais on se fait avoir deux fois sur le même truc. Et ça, on se dit, hein, c'était difficile à vivre. Difficile à vivre. Non, ça s'en est remis, mais bon. C'est des erreurs à pas commettre. Et voilà, on a une défense qui était un peu décimée dans le backfield. Donc voilà, on a un peu de la déception nécessairement.
Ouais, c'est même presque trois fois la même action hein, sur laquelle Evans marque ses trois touchdowns. Moi, ce que j'avais retenu, alors tu parlais de Sam Darnold qui faisait un match plutôt correct, il y a quand même deux fumbles hein, en plus de son interception.
Oui, c'est ce que je dis.
Dont un qui casse un peu la dynamique juste avant la mi-temps.
Dans les moments clés, il a un peu claqué.
Et après, l'autre truc que j'ai retenu, c'est un petit peu de frilosité, notamment sur des quatrièmes et un ou quatrièmes et quelques centimètres où voilà, Steve Wilkes et le coaching staff ont préféré punter et rendre la balle. Il n'y a pas eu de conséquences immédiates, mais le problème c'est que Carolina n'a pas réussi à creuser le trou suffisamment et aurait peut-être dû faire preuve d'un peu plus d'audace dans les choix de jeu. Après, c'est toujours facile de juger après coup, hein. Mais globalement, c'est peut-être ça un peu les deux déceptions qu'on pouvait avoir sur ce match, qui se soldent donc par une défaite et une élimination, et surtout qui emmène les Panthers vers un dernier match à la Nouvelle-Orléans, littéralement sans enjeu, aussi bien pour Carolina que pour les Saints. Et je pense qu'on va passer assez vite parce que le match était vraiment très très difficile à regarder. J'ai juste en tête la ligne de stats de Sam Darnold qui, alors qu'on commençait à se dire que peut-être éventuellement dans un rôle de remplaçant, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, il a rendu quelque chose comme 5 sur 15 pour 40 yards, dont 20 sur la dernière passe du match, si je dis pas de bêtises, avec deux interceptions. Donc c'était vraiment... je pense qu'il était littéralement déjà en vacances, lui. Et je ne sais pas si vous retenez quelque chose à part le field goal de la gagne de Pignero en toute fin de match. Les Saints ont eu 10 fois l'occasion de tuer cette rencontre et ils n'ont jamais réussi ou pu le faire. Et donc ça se solde par une victoire des Panthers. Mais je ne sais pas s'il y a grand chose à tirer de ce match.
Non, mais comme tu dis, c'était un match un peu sans enjeu. On était déjà plus ou moins sécurisé sur le spot à la draft. Donc à ce niveau, ouais, on n'avait pas vraiment de surprise à s'attendre. D'autant plus que les Saints étaient vraiment sur un match d'exhibition pour le receveur pour qu'il puisse aller gratter le poi. Mais Mais ouais, non, voilà, c'était pas le match le plus intéressant de l'année. Très clairement, ceux qui l'ont loupé, vous avez rien loupé de bien particulier.
Et donc, c'est comme ça que s'est terminée la saison des Panthers, avec un bilan de 7 victoires pour 10 défaites. C'est plutôt au-dessus des prévisions qu'on avait, si je me souviens bien, puisqu'on était plutôt sur 5-6. Notamment grâce à Steve Wilkes, qui termine avec un bilan équilibré de 6-6 sur les 12 matchs qu'il a coachés. Ce qui est un petit clin d'œil assez marrant de voir qu'en 12 matchs, il a réussi à gagner plus de rencontres que Matt Rhule avait gagné sur ses deux saisons précédentes, en ayant 17 à chaque fois. Du coup, puisqu'on parle de Steve Wilkes, je vous propose de transitionner sur la première grosse question de cette intersaison pour les Panthers. Que faire au poste de head coach, puisque donc Steve Wilkes a passé l'entretien pour éventuellement conserver le poste sur le long terme. Il n'est pas tout seul sur les rangs. Il y a notamment, entre autres, Frank Reich, Jim Caldwell, l'ancien coach des Lions, d'autres coordinateurs offensifs, par exemple Mike Kafka ou Ken Dorsey, qui doivent aussi passer des entretiens. Il y a aussi la rumeur Sean Payton, qui semble un petit peu compliqué à mettre en place, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, à voir ce que ça donne. Globalement, qu'est-ce que vous attendez, vous, sur cette recherche? Est-ce que vous jugez ça important, moins important que d'autres chantiers qu'on pourra évoquer tout à l'heure? Quel est votre sentiment là-dessus?
Ouais, c'est un peu, on a un peu l'impression de se retrouver 3 ans en arrière. Je sais même plus quand est-ce qu'on a signé Matt Rhule. Mais moi, de prime abord, avant qu'il y ait toutes les rumeurs, j'étais plutôt, je suis toujours finalement favorable à conserver Steve Wilkes, parce que je pense qu'il a largement montré qu'il était capable de coacher une équipe. Il arrive en cours de saison avec un effectif qu'il a pas construit lui-même, en étant même pas finalement coordinateur offensif ou défensif à l'origine. Hein. Il était, coach des defensive back, si je dis pas de bêtises. Et il fait un bilan de fin de saison plus que bon dans ces conditions-là. Il prouve clairement l'incompétence de Matt Rhule, et ça c'est aussi un petit point qui fait plaisir. Parce que finalement, ce gars-là a fait n'importe quoi à la tête de la franchise pendant plusieurs saisons. Ça en est bien la preuve. Et surtout, moi le point que je trouve très important, c'est qu'il a clairement, il fait clairement l'unanimité auprès des joueurs. Aussi bien les joueurs actuels qui ont pas arrêté de l'encenser finalement jusqu'à la fin de saison dans toutes les interviews, mais aussi les anciens joueurs des Panthers, et ça je trouve que c'est ça a une certaine importance aussi, parce qu'ils ont rien qui les oblige finalement à dire du bien de qui que ce soit. Et pourtant on a vu même dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, Greg Olsen qui dans une interview dit que pour lui c'est même pas une question à se poser, qu'il faut conserver Steve Wilkes, pour une raison en plus assez intéressante, parce que c'était une des choses que prenait Matt Rhule aussi, c'est pour le côté culture. Pour Greg Olsen, en fait, Steve Wilkes a déjà la culture Panther, et on se doute pourquoi, et les fans des Panthers le savent aussi. Et la culture, c'est quelque chose que répétait souvent Matt Rhule. Il a toujours essayé d'instaurer une culture chez les Panthers. Bon, on sait qu'il a pas réussi, et c'était peut-être pas la bonne culture qu'il a essayé d'instaurer. Mais tout ça fait que Steve Wilkes semble être le choix évident. Après, on a vu par rapport à tous les entretiens qui sont en train de se faire que c'était pas forcément aussi évident que ça pour Tepper et le front office. Donc moi j'ai du mal à voir vers où on se dirige, mais pour moi je serais plutôt tenté d'aller vers Steve Wilkes si c'était mon choix. Après, pour finir mon propos, moi j'avais aussi envie d'aller vers Matt Rhule à l'origine, donc faut peut-être pas non plus trop.
Tu seras fouetté pour ça, d'ailleurs. J'assume. Toute la franchise de Carolina t'en veut.
Moi de mon côté, ouais, c'est un peu le même avis que Mathieu, pardon. On a Steve Wilkes qui est déjà passé par chez nous. Il a fait une expérience chez les Cardinals. Il est revenu après. Il est revenu chez nous par la suite. C'est surtout une question de culture. On se retrouvait, on en a parlé plusieurs fois en cours de saison, avec un vestiaire qui était un peu, un peu terne, un peu, on ne sentait pas spécialement d'envie. Soi-disant, Matt Rhule avait le soutien des joueurs, mais bon, entre ce qui se dit et ce qui se passe, voilà. Il est revenu, et du coup, quand il est revenu, oui, il est revenu après le, il est revenu. Il était déjà bien sûr dans l'effectif, mais il a pris le poste de head coach après la mise à pied de Matt Rhule. Et ben, avec les mêmes armes, étonnamment, il a réussi à regagner des matchs. Et on a retrouvé du plaisir à regarder les matchs. Bon, ça dépendait des moments, bien sûr. Il y a certains matchs où c'est peut-être un peu moins joli. Pour autant, ben, il a réussi à réinstaurer une culture. La culture, voilà, que, comme tu disais, on a Greg Olsen, on a Thomas Davis qui ont fait des commentaires comme quoi, ben, c'était vraiment un coach qui avait la culture Caroline. Moi, je me rappelle, enfin, j'ai assez vite soutenu dans la saison, dans le sens où, ben, en fait, j'ai vu que ça marchait, qu'il y avait le soutien. Donc, en fait, c'est des éléments assez importants, pour que ça fonctionne sur le long terme. Comme on disait un peu avant, voilà, on termine avec un bilan de 6 victoires, 6 défaites, sous Steve Wilks. Pour moi, le match contre les Buccaneers, t'as un peu moins de blessés. Je dirais pas de conneries si je pense qu'on termine peut-être à 7-5. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est mon avis. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être un de mes favoris pour le poste de coach. Après, ouais, on sait qu'on a quand même aussi pas mal de monde qui est sur le coup. Il y en a même certains, en fait, qui finalement ont fait le choix de rester où ils étaient, avant de passer même les entretiens, notamment avec les Panthers. Je pense notamment à Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions. C'était un candidat qui était apparemment très sérieux vis-à-vis des Panthers. Donc voilà, il a fait le choix, donc on peut se poser les questions pourquoi, est-ce que finalement il s'est dit ce qu'il était prêt, ce qu'il était pas prêt, enfin voilà. C'est pareil, il me semble, enfin voilà, pour aussi d'autres coordinateurs offensifs, mais j'ai peur de dire des bêtises. Sinon, après, ouais, on a aussi le cas Sean Payton. Alors le cas Sean Payton, moi j'ai pas allé par quatre chemins, c'est un cas qui me dérange un peu, dans le sens où j'ai pas du tout envie de le voir arriver, genre... S'il arrive, je serais pas en train de défiler sur les Champs-Élysées, voilà, parce que c'est ancien coach de rival de division, voilà, il y a eu quelques problématiques aussi avec lui par le passé, notamment avec quelques affaires, notamment, je crois qu'il était impliqué dans l'affaire des primes pour les joueurs sur les blessures.
C'était le head coach à l'époque.
Voilà, c'est pas spécialement une culture qu'on a envie de voir débarquer chez les Panthers. Bon, après, voilà, il a peut-être une super image du côté des fans des Saints, mais que cette image reste là-bas et qu'elle s'approche pas trop de chez nous. Après, voilà, on en parlait en off avant le début de l'émission. Il y a aussi Denver qui pourrait être un candidat sérieux pour le voir débarquer. Franchement, let's ride, hein, comme dirait Russell Wilson. C'est un peu l'état des lieux que je ferai à l'heure actuelle. Après, ouais, on a d'autres candidats, mais ouais, peut-être plutôt sur des postes, par exemple coordinateur offensif avec un Ben McAdoo qui a, je pense, aussi un peu le feu aux fesses.
Ouais, pour Steve Wilks, effectivement, je peux que vous rejoindre sur le dynamisme et la culture qu'il a réinstauré dans l'équipe. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que ça va dépendre beaucoup du choix qu'il va faire au poste de coordinateur offensif, parce que là, dans l'état, faut quand même... Enfin, moi, la façon dont je vois les choses, c'est que sur la saison... globalement, à part Jesse Horn en toute fin de saison et Dante Jackson un petit peu plus tôt, les Panthers ont quand même été très largement épargnés par les blessures. Ils ont eu un calendrier plutôt abordable, et malgré ça, alors que sur le papier tout roulait pour eux, ils font seulement un bilan à 6-6. Alors certes, il y avait des limites au poste de quarterback, ils étaient extrêmement dépendants du jeu au sol. Le problème, c'est que si vraiment l'idée, c'est de continuer dans cette direction sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit vraiment viable. Donc voilà, si vraiment il y a un bon choix au poste de coordinateur offensif, pourquoi pas. Après, on sait que le problème dans ces cas-là, c'est que les coordinateurs offensifs, comme on le voit pour les Panthers, hein, puisque c'est a priori le choix du cœur de David Tepper, il semblerait plus parti sur un jeune génie offensif, entre guillemets, pour diriger l'équipe, forcément, s'il y a une bonne saison au poste de coordinateur offensif, ça attirera des convoitises la saison prochaine, et donc on sera peut-être amené à repartir, pas de zéro, mais pas loin, à la prochaine intersaison. Donc voilà, ce sera à surveiller. Sean Payton, alors au-delà des arguments que tu mentionnais, moi j'avoue que je suis pas non plus très très chaud pour le recruter, hein, mais c'est surtout qu'il est encore sous contrat avec les Saints jusqu'en janvier 2025, donc ça veut dire que pour le faire venir, au-delà du gros chèque que David Tepper devra signer, c'est surtout qu'il faudra lâcher des choix de draft aux Saints pour qu'ils acceptent de le transférer, et de par la rivalité de division, On se doute que le tarif sera relativement élevé. Ça parle à minima de deux choix de premier tour, hein, donc le neuvième choix de cette année, plus vraisemblablement celui de la saison prochaine. Alors, il y a peut-être moyen de trouver des packages pour revenir à cet équivalent, mais voilà, ça devrait tourner autour de ça. Donc ça fait quand même beaucoup, d'autant qu'il y a pas mal de choses à reconstruire, notamment vers le poste de quarterback, puisque à l'heure actuelle, les Panthers n'ont sous contrat que Matt Corral, en l'occurrence, si je dis pas de bêtises, puisque Baker Mayfield n'est plus là, Sam Darnold est en fin de contrat, PJ Walker aussi. Du coup, qu'est-ce que vous envisagez au poste de quarterback pour la saison prochaine pour les Panthers? Est-ce qu'il y a des noms qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes plutôt free agent ou alors joueur vétéran en trade? Par exemple, un David Carr, Derek Carr, pardon. David Carr, on a déjà donné. donc, est-ce qu'un Derek Carr des Raiders pourrait vous intéresser, par exemple? Il y a des rumeurs autour d'Aaron Rodgers, de Lamar Jackson. Alors là, on serait dans des tarifs probablement plus élevés pour les acquérir. Mais voilà, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous envisagez au poste de quarterback pour les Panthers la saison prochaine?
Derek Carr, c'est non. Enfin, du moins pour moi, genre, on a déjà donné assez sur les trades, Bridgewater, Sam Darnold, maintenant Derek Carr. Enfin, je me suis avancé, voilà, c'est dans l'hypothèse. Non, c'est sur un quarterback en perte de vitesse pour essayer de le relancer chez nous, on a vu que ça marchait pas. Faire une troisième expérience, enfin une quatrième même avec Baker Mayfield, pardon. Non. À part faire souffrir la fanbase, je vois pas spécialement l'intérêt. Cela dit, j'espère que Derek Carr trouvera un endroit où il arrivera à rebondir, mais j'espère que ce sera pas chez nous. Après voilà, par exemple un Aaron Rodgers, on sait que voilà, on arrive un peu sur une fin de cycle à Green Bay. Il y a la question à savoir, est-ce qu'ils veulent reconstruire? S'ils reconstruisent, Rodgers a clairement fait savoir qu'il ne serait pas de la partie. Donc, il y a potentiellement une sortie qui se fait pour lui. Après, est-ce qu'il va envie d'arriver chez une équipe comme Carolina, comment dire, qui n'est pas au même état que Green Bay, dans le sens où on partirait probablement d'un rebuild du côté de Green Bay, pas chez nous. Voilà, il y a une question d'intérêt pour lui en termes de choix de carrière, parce que je suppose que voilà, son idée, c'est peut-être d'arriver dans une équipe compétitive pour aller essayer de gratter un dernier Super Bowl. Un Lamar Jackson, ça pourrait potentiellement, mais ça serait cher. Ouais, ce serait assez cher, parce que je non, sais pas le prix.
Sur trois first, hein, pour
ouais, c'est ce que j'imaginais, j'allais dire.
Je pense que ce sera à peu près le tarif, donc.
Voilà, donc c'est ça, c'est la question après, au niveau des choix, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut construire aussi par la free agency? On se retrouve du coup avec un choix numéro 9 à la draft. Donc, on va avoir des possibilités. On sait que devant, il y a certaines équipes qui vont chercher un quarterback, notamment les Texans. On sait qu'il y a quand même quelques candidats potentiels à la draft. Donc voilà, est-ce qu'on va monter, faire un trade-up, alors que ça va s'annoncer assez cher? On a, comme tu dis, on a plus que Matt Corral, entre guillemets, signé dans le roster. Je sais pas trop, personnellement, c'est un point assez difficile, mais de toute façon, en fait, ça va aussi beaucoup dépendre de la philosophie du head coach. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de poids dans la discussion. À savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui a préféré aller par la free agency, aller par un trade, ou par la draft, donc c'est très difficile à répondre, et je pense qu'on pourra peut-être encore plus se projeter quand on saura qui est le head coach, enfin, du moins faire des hypothèses.
Mathieu, même question, est-ce que toi t'as une préférence Non, Derek Carr, un autre
Thomas a été assez précis sur la question, et ça m'arrange bien, parce que je sais pas trop quoi répondre sur cette question, parce que déjà, en termes de QB vétéran, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose qui m'excite. Derek Carr, pas du tout. Et à la draft, ça va coûter beaucoup trop cher pour monter suffisamment haut, pour avoir un Young ou un Stroud. Donc, j'avoue que je ne sais pas quoi faire, même si, évidemment, il ne faut pas garder, Darnold. Et il ne faut pas non plus... on peut pas se contenter de PJ Walker et Matt Corral, uniquement. Alors du coup, moi je sais pas trop quoi faire, donc je me cache un peu derrière la même réponse, un petit peu que Thomas, qui dit que bah, vaut mieux attendre de voir qui est-ce qu'on signe en tant que head coach et voir un petit peu ce que lui a envie de faire. Et je me rangerai derrière ce choix-là. Mais voilà, moi juste la question que je me pose, c'est ce qu'on va faire de Matt Corral, parce que ça avait quand même hypé pas mal de monde l'année dernière quand on l'a drafté. Finalement, bon, il s'est blessé assez tôt, on le sait. Et au final, j'ai l'impression que ben on a un peu oublié qu'on avait Matt Corral dans le roster. Alors je sais pas exactement quand est-ce s'il est vraiment revenu de blessure ou pas. Je sais pas s'il a pu s'entraîner dans la saison ou pas, ce qui est pas gagné non plus. Donc éventuellement en début de saison prochaine, il sera exactement comme un rookie, donc c'est sûr qu'on peut pas compter sur lui. Mais voilà, c'est pas mal de questions qui font que c'est difficile de faire un choix sur cette question-là.
Ouais, ben Matt Corral, en fait, il s'est blessé, il a été placé sur la liste des blessés juste avant le début de la saison, et donc du coup, il a pas pu jouer du tout. Sa saison était terminée avant même de commencer. Mais c'est surtout, on rejoint le point que moi j'avais évoqué et qui était la raison pour laquelle je voulais pas que les Panthers draftent de quarterback la saison dernière à la draft. C'était tout simplement que ben voilà, c'est le choix de Matt Rhule et de Ben McAdoo. Et ben en l'occurrence, le premier, il a sauté au bout de 5 semaines. Et pour le deuxième, je veux pas m'avancer, mais il y a quand même des chances qu'ils subissent le même destin dans quelques jours, semaines maintenant. Donc voilà, Matt Corral, quel que soit son niveau et ce qu'on en pense, il va se retrouver dans une franchise, certes qu'il a drafté, mais où bah, les gens en poste au moment de sa sélection bah, ne sont plus là. C'est exception vrai. Faite de Fitterer, mais voilà, au niveau sportif, les coachs ne sont plus là. Donc ça va être un vrai dilemme. En parlant de dilemme, je vous pose la question, parce que j'ai un supporter des Seahawks qui m'a posé la question un petit peu plus tôt dans la semaine, concernant la draft. Alors, j'ai cru comprendre un petit peu hein, votre avis au travers de vos réponses, mais est-ce que vous seriez prêt à monter à la draft pour récupérer donc ce choix 5 des Seahawks, dans l'hypothèse où, celle qui m'avait été présentée, c'était que Young et Stroud étaient partis, et donc le choix numéro 5 aurait été pour obtenir Will Levis. Est-ce que vous auriez accepté ce trade, la compensation étant bah, le choix numéro 9 plus les trois choix du deuxième et troisième tour, donc le 39, le 60, enfin celui de San Francisco, on ne sait pas encore exactement quel numéro il aura, mais il sera dans ces eaux-là, et le 92, je crois, pareil, ce sera celui de San Francisco. Donc voilà, le 9 plus deux choix de deuxième tour et un choix de troisième pour monter au cinquième choix pour prendre Will Levis. Vous êtes pour, contre, pas d'avis, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je suis pas pour. À la limite, si c'était pour Stroud ou pour Young, ouais, mais enfin, franchement, Levis, il m'excite pas plus que ça. Et ça fait un peu cher. Alors, c'est un peu particulier parce que je sais pas non plus dire ce que je veux faire au poste de QB. Mais trade-up pour Will Levis sur ce genre de tarif-là, moi, ça me dit pas trop.
Ouais, puis de mon côté, j'avoue que je suis déjà pas un fan entre guillemets des trade-up en fait dans le premier tour. Donc ouais, j'aurais tendance un peu à partir sur l'hypothèse d'un non, mais bah, s'ils sentent que c'est leur gars, faut y aller quoi. Mais j'avoue que je suis pas toujours fan des trade-up dans le premier tour, parce que souvent on se retrouve à envoyer de la compensation où on aurait pu renforcer aussi d'autres postes, parce qu'on envoie souvent des pics, voilà, deuxième ou troisième tour, là où il y a quand même encore matière à récupérer des bons joueurs.
Et justement, niveau compensation, alors j'ai pas regardé avec les drive charts pour les poids des pics, mais est-ce que la compensation te semble convenable pour monter de 9 en 5 dans ce cas-là, si jamais c'est ton gars, ou alors tu trouves ça un peu cher
Moi, je pense que globalement, on est dans les... Enfin, c'est pareil, j'ai pas tous les détails en termes de coûts de chacun des pics, mais je pense que ce serait à peu près dans ces environs-là, en termes de prix. C'est l'impression que j'ai, du moins, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais me faire ramasser par d'autres personnes qui vont m'expliquer les valeurs, mais globalement, c'est quelque chose que je trouve assez cohérent.
Ouais, parce qu'en gros, c'est vrai qu'on peut peut-être le préciser, mais généralement, il y a une feuille Excel, hein, grosso modo, avec un certain nombre de points qui est attribué à chaque pick dans la draft, et ça sert de base de compensation pour le calcul de la valeur des packages offerts pour les échanges. Alors, c'est pas toujours respecté, et quand il y a un QB à la sélection derrière, souvent le prix est un petit peu gonflé. Mais voilà, grosso modo, c'est une échelle de valeur pour faire équivaloir un choix de draft avec un package dans le cadre d'un échange. Autre hypothèse, qu'est-ce que vous penseriez si on part dans l'idée que Matt Corral est un quarterback rookie et qu'on le compare avec lui? Est-ce que vous prenez plutôt un quarterback en deuxième tour de draft, par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe, ou alors l'encadrer avec un vétéran free agent, type un Garoppolo, un Minshew, je ne sais pas qui d'autre il y aurait dans la liste, hein. Il y a quelques noms en dehors de Mayfield et d'Arnold, il y a pas mal d'autres noms qui sont disponibles. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous séduit plus, moins que celle de partir avec un rookie dans le top 10?
Alors j'aurais tendance à te dire peut-être plutôt l'hypothèse d'aller de prendre entre guillemets un quarterback qui a du potentiel un peu en round 2 ou en round 3, dans la mesure où, comme tu disais un peu avant, on se retrouve en fait avec un Matt Corral qui a été choisi par Matt Rhule, en partie par Matt Rhule, donc tu te retrouves potentiellement avec un joueur qui ne correspondra pas à la philosophie de jeu du nouveau coach, donc ouais, c'est plutôt l'option deuxième tour, slash troisième tour que j'imagine.
Moi je choisis l'inverse, parce que j'imagine que si on part avec Matt Corral, c'est que du coup c'est un choix qui convient au nouveau coaching staff. Donc partir de là, moi j'aime bien la formule QB rookie avec un vétéran pour lui montrer un peu comment faire. C'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais il y a quand même beaucoup de variables dans cette formule-là. Déjà, il faut que Matt Corral plaise au nouveau coaching staff. Il faut qu'on parvienne à trouver un vétéran qui fasse l'affaire. Il y a pas mal de choses qui changent. Et il faut, in fine, que Matt Corral soit bon. Et ça, c'est aussi une... Voilà, on peut pas en avoir le cœur net pour l'instant. Donc, quitte à choisir, moi, je partirais plutôt sur cette option-là, mais je pense que toutes les options s'entendent. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur avec le fait de drafter un QB en deux ou troisième tour, c'est qu'on continue finalement ce cycle où on drafte des... Qu'on a commencé un peu avec Will Greer, bon, même si ça commence à remonter il y a longtemps, mais où on va drafter des QB deuxième, troisième tour, même voire plus bas, et que finalement, c'est pas des mecs qu'on veut ou qu'on va réussir à développer, et que finalement ça sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, en parlant de développement aussi, ça peut être une des variables, c'est est-ce qu'on va avoir un coaching staff qui est particulièrement doué pour développer des rookies QB. Pas mal d'incertitudes.
Bah ouais, ça laisse pas mal de questions, hein. Comme tu le disais, on a un petit peu l'impression de revivre un peu le cycle habituel, hein, tous les ans, les mêmes questions au poste de coaching staff, de quarterback. On sent qu'il n'y a pas de vraie évolution à ce niveau-là. Et ça met quand même, mine de rien, une grosse pression, hein, sur la sélection du head coach, selon moi. Parce que on sait que la sélection de Matt Rhule, c'est un choix de David Tepper, qui avait vraiment voulu... c'était son gars, quoi. Il avait choisi Matt Rhule. Donc là, il se retrouve vraiment dans l'obligation... si tant est que le propriétaire à 18 milliards de dollars peut avoir des obligations dans ce cas précis, mais il a entre guillemets une certaine pression pour choisir le bon head coach pour enfin faire partir la franchise, parce que c'est vrai que ça va faire 5 ans maintenant qu'il est aux commandes et il a toujours pas eu une saison positive, il y a toujours pas de play-off, donc ça commence à faire un petit peu long. Et je pense que lui, le premier, a envie de voir une franchise qui gagne au sein du Bank of America Stadium. Globalement, pour pas faire trop long non plus, avant de conclure, est-ce que, en dehors du head coach et du poste de quarterback, quelle serait chacun votre priorité de l'intersaison, le poste à renforcer dans l'effectif, ou alors le joueur à garder absolument
Écoute, personnellement, si dans l'option, en fait, on ne prend pas un quarterback à la draft, par exemple au premier tour, j'ai deux postes en défense qui me reviennent particulièrement. Dans le sens où offensivement, on a quand même une attaque qui tourne, hormis le poste de quarterback, bien sûr. Peut-être aller chercher un defensive end. Ouais, là, c'est un peu l'aveu de l'échec Yetur Grosmatos. Un defensive end à mettre à l'opposé de Brian Burns. Ou peut-être un linebacker. C'est peut-être voilà les postes principaux. Je trouve on a un manque de personnel de qualité.
Ouais, parce qu'il y a en plus des gros points d'interrogation par rapport à Shaq Thompson, hein, dont la dernière année de contrat est très gourmande en termes de salary cap. Donc il pourrait faire soit une prolongation, soit sinon les frais d'un cut, hein, tout simplement pour économiser un petit peu d'argent. D'autant qu'il y a déjà pas mal de dead money avec les trades un peu plus tôt dans la saison de Christian McCaffrey et de Robbie Anderson. Même question pour toi, Mathieu. Est-ce que tu as une autre réponse qu'un defensive end ou un linebacker?
Ouais, du coup, pour varier, moi je vais passer côté attaque parce que je trouve quand même que depuis le départ de Robbie Anderson et de Christian McCaffrey, même si Robbie Anderson n'a jamais vraiment explosé dans l'équipe, on commence, je trouve, à se retrouver un peu light côté surtout wide receiver ou linebacker qui peut running back qui peut réceptionner. On a DJ Moore, mais bon, qui a pas forcément brillé sur tous les matchs. On sait bien que c'est aussi question de quarterback. Et derrière DJ Moore, il faudrait peut-être que Terrace Marshall Jr. se révèle la saison prochaine sur une saison entière, etc. Bon, il peut se passer des choses, mais je trouve que c'est léger. Donc, je pense pas non plus drafter un wide receiver en 9, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que ça ferait pas de mal de s'épaissir un petit peu de ce côté-là, parce que c'est peut-être aussi les anciens traumatismes de nos anciens groupes de receveurs qui ont historiquement été assez cata, mais j'ai un peu peur qu'on soit en train de se retrouver dans une situation où on n'avait pas grand monde de ce côté-là. Et notamment, moi, ce que j'aimerais bien depuis longtemps, mais bon, je sais pas si un jour on y aura droit, c'est depuis le départ de Greg Olsen, on n'a pas encore eu de tight end vraiment dominant.
Et, merci.
Je rêve, quand je vois des Kittle et compagnie dans d'autres équipes se régaler match après match, je rêve d'avoir quelque chose de ce genre-là. Donc encore une fois, et j'avoue, j'ai pas encore trop regardé la draft, donc je sais pas ce qui existe entre guillemets, ce qui va être dispo pendant cette draft côté tight end, mais c'est peut-être quelque part où je regarderai.
Je te rejoins complètement. Alors je veux pas donner l'impression de m'acharner quand c'est pas sur Matt Rhule ou Sam Darnold, on va dire que je tape sur Ian Thomas.
Ah bah.
Mais clairement, voilà, il faut autre chose au poste de tight end. Il faut ok, il a progressé en bloc, mais en termes de jeu de passe, c'est pas ça. Tommy Tremble, ça met un petit peu de temps à éclore, donc voilà, moins que vraiment l'ancien tight end de Notre-Dame explose la saison prochaine, pour moi il faut quelqu'un pour, ne serait-ce qu'en soupape de sécurité pour le quarterback, ce serait tellement, tellement un bon choix selon moi. Et puis, si je veux varier par rapport à vos choix, moi, je donnerais un choix en défense aussi, à surveiller quand même un autre cornerback. Parce que certes, Dante Jackson est toujours sous contrat l'année prochaine, mais entre lui et Jesse Horn, on a quand même deux cornerbacks qui ont manqué pas mal de matchs depuis 2 ans. Donc voilà, je vais pas dire qu'ils sont injury prone, parce que j'aime pas trop ce qualificatif, mais force est de constater qu'en 2 ans, Jesse Horn, il a manqué la moitié des matchs, et Dante Jackson, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais ça doit pas être loin d'être autant, ou en tout cas il a joué blessé sur beaucoup. Donc voilà, ce sera mes pistes. Moi je m'orienterai vers ça aussi, en tout cas dans les pistes à surveiller. Je pense qu'on a globalement fait le tour, pour éviter de faire une émission trop trop longue. En plus, je crois que ma voix est en train de définitivement m'abandonner ce soir, je m'excuse de ça. En tout cas, c'était très plaisant, messieurs, d'enregistrer avec vous. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Donc, merci à vous de votre participation.
Ouais, merci à toi.
Écoute, merci à toi.
Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir écoutés. C'est l'émission qui va, je pense, conclure la saison 3 du Poundcast. Donc on va voir comment on fait pour la saison 4, si on revient, à quel rythme. Voilà, pas mal de questions qu'on se pose à ce niveau-là. Donc on vous tiendra au courant. D'ici là, profitez des playoffs avec des équipes qui montrent du beau football jusque-là. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour discuter de l'actualité des Panthers à nouveau. À très bientôt, ciao.
Salut.
Ciao.